Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, catholique veut dire universel, preuve que l'Église se veut à la taille de la famille humaine et préoccupée de tous. Pour cette émission Vivante Église sur l'actualité de l'Église universelle au sommaire, aujourd'hui notamment la fête de Pâques à Rome avec le pape François et ses discours et homélies prononcés à cette occasion, la visite de ce dernier en Égypte prévue cette fin de semaine, les 28 et 29 avril prochains, ou les 100 ans des apparitions de Fatima, apparition de la Vierge à Trois Bergers en 1917, revue de presse. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc actualité de l'Église universelle, l'émission donc mensuelle avec le père Michel Dagra qui nous aide donc à décrypter cette actualité, prêtre du diocèse de Toulouse et professeur de théologie émérite. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Alors commençons par Pâques et par cette grande et bonne nouvelle pour les chrétiens de la résurrection du Christ. Donc le pape évidemment, comme il se doit, a fêté dignement les fêtes de Pâques. Je commencerai par ce qu'il a dit dans la nuit de Pâques, entre autres à un moment, j'ai relevé dans un article, il est dit la chose suivante: quand la lumière s'est soudain allumée dans la basilique Saint-Pierre, jusque-là plongée dans la pénombre, un frémissement a parcouru des milliers de fidèles rassemblés dans l'immense nef, comme il avait sans doute parcouru les femmes après l'annonce de l'ange au matin de la résurrection. Et le pape a eu ce mot, il a dit: voici que cette nuit nous appelle à annoncer le frémissement du ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est vivant, pardon. Voilà. Encore une formule du pape François.
Il est ressuscité parce qu'il est vivant, oui. Ou il est vivant parce qu'il est ressuscité. Je pense que les deux termes sont à coller de façon indissociable.
Frémissement du ressuscité, c'est quand même, oui. C'est quand même une bonne expression, non? On peut dire que...
Ah oui, c'est assez imagé, mais dans son homélie pour la veillée pascale, il a développé ce frémissement, si on pourrait dire, pour reprendre ce mot, en trois points. Il a d'abord fait mention de la tristesse et du chagrin des femmes arrivant au tombeau. Elles sont surprises par cette absence. Ne savent pas trop quoi en penser. C'est évidemment, nous sommes nous-mêmes bouleversés de la même façon lorsque nous entrons dans l'obscurité de la foi, dans la nuit des questions qui nous obsèdent.
Alors, je citerai juste des passages, hein, Michel Dagra. Oui. Parlant de ces femmes, il parle du pas typique de celui qui va au cimetière, un pas fatigué de confusion, un pas affaibli de celui qui ne se convainc pas que tout se soit fini de cette manière et plus loin. Et si nous faisons un effort d'imagination dans le visage de ces femmes, nous pouvons trouver les visages de nombreuses mères et grand-mères, le visage d'enfants et de jeunes qui supportent le poids et la douleur de tant d'injustices si inhumaines.
Voilà, c'est une volonté permanente du pape d'appliquer vraiment le mystère de la foi et les composantes de ses expressions à la réalité concrète de la vie des gens. Voilà. Et après cette phase de tristesse et de chagrin, il y a devant ce tombeau vide une perplexité. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce vide. Il est revenu à la vie, mais pas seulement... revenu à la vie, il est la vie même, donc il faut le chercher ailleurs, il faut sortir du tombeau. Et c'est le moment où le troisième point dans le discours du pape fait appel à une invitation à la mémoire. Souvenez-vous, est-il dit aux femmes, souvenez-vous de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Donc cette mémoire de l'expérience de Dieu dans notre vie doit être un guide à travers les nuits des tombeaux que nous traversons.
Voilà, le pape François, je prolonge vos propos, hein, donc qui toujours en essayant, comme vous dites, d'incarner l'évangile, parle de ceux qui marchent par la ville sentant la douleur de la misère, la douleur de l'exploitation et de la traite, voilà, de toutes ces femmes qui pleurent en voyant que la vie de leurs enfants reste ensevelie sous le poids de la corruption, etc., etc. Et donc il invite à cette espérance. Et il dit la chose suivante: le Christ n'a pas seulement ôté la pierre du sépulcre, mais il veut aussi faire sauter toutes les barrières qui nous enferment dans nos pessimismes stériles, dans nos modes de calcul conceptuels et qui nous éloignent de la vie.
Voilà, cet enfermement, ce désir, cet appel à sortir de l'enfermement se concrétise par les mots que je me permets de lire ici. Si jusqu'à présent tu as été loin de lui, loin de Dieu, fais un petit pas, il t'accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, accepte de risquer. Ça, c'est une espèce d'annonce par rapport à ce qu'on verra plus tard dans ses propos vis-à-vis des migrants et d'un tas d'autres difficultés dans lesquelles nous sommes. tu ne seras pas déçu en risquant. Lui, il est proche de toi, il est avec toi. Il te donnera la paix. Et je pense que c'est vraiment l'originalité chrétienne de croire ainsi que non seulement Dieu existe, mais qu'il nous aime, donc il partage notre vie. Et la foi dans la résurrection, c'est ce bonheur de croire que Dieu est vraiment au plus proche de nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et nous accompagne sur les chemins de la vie.
Alors si on continue à propos de Pâques, il y a donc le fameux message Urbi et Orbi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est que le message Urbi et Orbi? Ça veut dire quoi en fait?
C'est un message adressé à la ville de Rome et au-delà, à la terre tout entière. Hein. Urbi, c'est la ville, et Orbi, c'est la désir, la planète tout entière. Donc ça fait écho à ce que vous disiez tout à fait au début. L'Église catholique donc, a une prétention d'adresse à l'humanité tout entière. Et le message de Pâques donne cette occasion.
Donc, message Urbi et Orbi. Alors, après avoir lancé « Jésus est ressuscité », il est vraiment ressuscité comme il l'avait dit. C'est donc un discours traditionnel dans lequel le pape donne, j'allais dire, les priorités du cœur de l'Église. C'est probablement un peu court de dire ça, mais malgré tout, quelques points d'attention bien particuliers. Donc, voilà, le pape a rappelé que le pasteur ressuscité va chercher celui qui est égaré dans les labyrinthes de la solitude et de la marginalisation. Je vais y arriver. Il a parlé des nouveaux esclavages, de ceux qui en sont victimes, des travaux inhumains, des trafics illicites, des exploitations et discriminations graves et des dépendances. Voilà, toujours cette attention, évidemment, à ceux qui sont le plus marqué par la souffrance, et puis le pasteur se fait compagnon. Et alors il a donné quand même 2-3 messages politiques, comme de coutume, à l'occasion de ce message Urbi et Orbi, ou des points d'attention. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a nouveau, enfin, avant de parler de la situation politique de certains pays, il a nouveau parlé du trafic des armes et de la vente des armes. Et là, on peut dire qu'il ne désigne pas, en l'occurrence, des pays en voie de développement la plupart du temps.
Oui, en fait, il part de l'événement fondamental qui éclaire le mystère de Pâques. Il s'agit, et il le dit dès les premières lignes de son message, de la libération d'un peuple de l'esclavage d'Égypte. Voilà, le peuple juif fait mémoire, mémorial, c'est non seulement se souvenir, mais revit cette expérience de libération, et les chrétiens pensent, croient que Jésus accomplit ce mystère de libération dans sa propre chair, en nous donnant sa vie, en nous libérant de la mort et du péché. Donc aujourd'hui, cette expérience de libération se concrétise dans cette Égypte qui n'a rien à voir avec l'Égypte, le pays dans lequel va aller le pape d'ailleurs, mais le symbole de ce pays d'esclavage, d'exploitation de l'homme par l'homme, et cette espèce d'épouvante dans laquelle se trouve tellement d'hommes écrasés par l'exploitation, la misère, le péché, tout le mal possible et imaginable. Et donc dans son message, dans son appel, Urbi et Orbi, il fait déjà une liste de ces situations qui décrivent, en quelque sorte, l'Égypte du malheur actuel. Il parle du bon pasteur, c'est intéressant, au lieu de parler du Christ ressuscité comme ça, bon Dieu est vivant parmi nous, il spécifie sa présence sous le signe du bon pasteur. Le bon pasteur vient chercher ses brebis perdues. Il vient nous ramasser dans nos misères, nous reprendre avec lui, nous sortir de ses pièges et nous conduire sur des chemins de bonheur et de paix. Évidemment, tout cela est à interpréter au final dans la vie intérieure, la plus spirituelle qui soit. Mais enfin, tout est lié, comme dit le pape François dans une autre circonstance.
Et sur le trafic des armes, alors, quand il dit donc qu'il donne aux responsables des nations, en l'occurrence le Seigneur ressuscité, le courage d'éviter l'expansion des conflits et d'arrêter le trafic des armes.
Ben voilà, ça fait partie des
Mais il en parle souvent, en fait. Hein.
Oui,
et parfois, il est en colère. J'ai souvenir d'un voyage en Terre Sainte où il a lancé « Qui vend les armes ? Qui vend les armes ?»
Et voilà, et les évêques locaux, d'ailleurs, disent « Vous voulez arrêter Daesh, arrêter de leur vendre des armes, ça s'arrêtera tout seul. » Mais là, j'y reviens, il prend en charge, ce bon pasteur, tous ceux qui sont victimes des anciens et des nouveaux esclavages, et là, il cite « Travaux inhumains, trafic illicite, exploitation et discrimination, grave dépendance. » Les enfants et les adolescents qui sont privés de leur insouciance pour être exploités et qui, le cœur blessé par les violences subies à l'intérieur des murs de leur propre maison, Voilà, nous sommes là devant, stupéfaits finalement, sidérés devant un monde de malheur. Mais l'espérance de Pâques, c'est de croire que Dieu vient nous chercher au cœur même de ces misères pour nous sortir et nous conduire sur des chemins de vie, de justice et de paix.
Alors il parle de d'autres situations politiques plus précises. Il a quelques mots sur la Syrie. La Syrie aimée et martyrisée, victime d'une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort. Puis il parle du Sud-Soudan, de l'Amérique latine, voilà, parlant de tensions politiques et sociales importantes.
Et puis de la Somalie, et puis du Congo, et puis de...
Est-ce que vous avez relevé certains... Comment dire, est-ce que certains... Vous voulez développer certaines...
Ah ben oui, devant cette panoplie de pays en guerre, avec toutes les turpitudes dont il souffre, lui, qu'est-ce qu'il dit dans son message de Pâques? Construisons des ponts de dialogue. Voilà. Essayons non seulement de lutter contre le mal, mais engager cette œuvre tout à fait positive de construire des ponts de dialogue. Et le dialogue, ça consiste à sortir de ses a priori, de ses préjugés, pour écouter l'autre, lequel aussi doit sortir de ses a priori, de ses préjugés, et qu'une relation positive, féconde, s'établisse entre les parties qui jusqu'alors se battaient. Moi, je n'oublie jamais que dans le groupe des apôtres, il y avait Matthieu le Publicain et Simon le Zélote, des gens qui politiquement ne pouvaient pas s'entendre. Ils avaient tout pour se disputer, même se battre, et puis ils acceptent l'un et l'autre de suivre le Christ, donc de dépasser leur point de vue, d'aller au-delà de leurs convictions terrestres, politiques si je puis dire, et pour s'engager dans une communication qui dépasse ces lieux seulement humains.
Alors peut-être Michel Dagra, avant qu'on fasse un peu de rétropédalage et qu'on parle aussi du vendredi et du jeudi saint, moi il me vient toujours une question à l'occasion de ce message Urbi et Orbi où le pape dit l'attention de l'Église à toutes ces situations les plus dramatiques qui traversent notre planète, que vous me direz c'est ne pas croire à la force de la prière, mais vu de loin ça peut paraître un peu des déclarations d'intention. On se dit qu'est-ce que le ressuscité va aider à la résolution du conflit au Sud-Soudan ou en Syrie.
Ah oui, écoutez, bon, je crois que dans la vie quotidienne qui est la nôtre, le contact avec le mal est fréquent. Nous sommes capables d'aversion vis-à-vis des autres, de blocage sur des idées préconçues. Et nous sommes appelés ici et maintenant à construire des ponts. Voilà, et c'est pas tout de pleurer contre ceux qui sont loin, qui se battent, et puis les misères qui sont dans des pays affreusement torturés. Enfin, les immigrés, ils sont ici, hein, les pauvres, ils sont ici, les voisins, ils sont ici, les personnes qui font des options politiques différentes des nôtres, ils sont ici, et c'est ici et maintenant qu'il faut créer ces ponts. Je pense de temps en temps à ce fameux colibri de Pierre Rabhi qui porte sa goutte d'eau pour éteindre un incendie, ce qui est absolument ridicule, mais il fait sa part. Eh bien, nous avons à faire notre part. Et le message de Pâques nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, avec nos seules forces, pour entrer dans cette entreprise, dans cette aventure de reconstruction, mais que Dieu est avec nous, mais il n'agira pas sans nous, sinon nous serions des marionnettes. Donc nous avons à prendre nos responsabilités, mais ça commence ici et maintenant, c'est pas la peine de penser. Enfin, il faut penser, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe loin, mais nous devons être particulièrement attentifs à ce qui se passe ici.
Donc, si on revient sur le vendredi donc, et le jeudi saint, est-ce qu'il y a des choses que vous avez relevées, entre autres à l'occasion du chemin de croix, donc, qui a été, dans la méditation, si je ne me trompe pas, a été réalisé par une bibliste française, vous allez nous le dire. Le pape François a dit sa honte pour certains égarements, certains péchés de l'Église.
Oui, il y a deux parties dans son discours, dans sa prise de parole lors du chemin de croix du vendredi saint au Colisée. Bon, d'abord, vous l'avez noté, c'est important, c'est la préparation de ce chemin de croix, de la méditation des 14 stations, a été faite par une bibliste française, Anne-Marie Pelletier. C'est intéressant de le noter. Et là, au pied de la croix, au terme des 14 stations, le pape François a élevé sa prière au Christ crucifié, les yeux remplis de honte et le cœur plein d'espérance. Nous avons les deux mots-clés de son intervention vendredi saint. La honte, il y a de quoi là, sans savoir la cultiver, ça tombe dessus. Les dévastations, les destructions, les naufrages, tout cela, bon, c'est déjà honteux, mais c'est doublé de la honte d'être devenu ordinaire. Il y a une accoutumance, une indifférence. Bien souvent, le pape réagit contre cette indifférence. Il est honteux de rester indifférent devant ses malheurs.
Mais il parle aussi de l'Église.
Bien entendu. Alors oui, dans la liste
non close. Honte pour toutes les fois où nous avons lâchement fui nos responsabilités, notre silence face à l'injustice.
Oui, voilà.
Pour les évêques, les prêtres, les consacrés qui ont scandalisé et blessé l'Église.
Voilà, voilà. C'est au bout d'une liste dans laquelle on trouve persécuter les femmes et les enfants, les migrants, les gens persécutés à cause de leur peau ou de leur référence ethnique, sociale, de leur foi aussi. Et puis, évidemment, les évêques, les prêtres, les consacrés qui ont scandalisé et blessé l'Église. C'est pas la peine de détailler. On voit bien à quoi le pape fait allusion. Mais tout ça, c'est une honte. Et la liste qu'il donne n'est pas close. On sait très bien que on baigne dans cette honte. Mais le malheur, ce serait de s'y habituer. Évidemment, quand une honte nouvelle, quand un malheur nouveau se présente, là, il y a un surgissement de conscience aussitôt, une indignation, mais la grande difficulté, c'est l'accoutumance. Ah. On s'accoutume à tout, et ça, il faut lutter contre.
Redites-nous l'expression qu'a utilisée le pape, les yeux remplis de honte et...
Les yeux, je retrouve ce texte, hein, les yeux remplis de honte et le cœur plein d'espérance. Voilà, nous avons les deux mots. Alors, suis donc l'espérance, parce que ces trahisons sont quand même peuvent être dépassées, comblées par la miséricorde. Voilà, on passe grâce à la miséricorde, on passe du cœur endurci au cœur de chair. Je n'oublie pas que le premier mot de la grande liste de saint Paul, quand il parle de la charité, au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, c'est qu'on traduit l'amour donne. Et prend patience, en fait, c'est l'amour élargit le cœur, fait un cœur large, ouvert. Voilà, il faut un appel à pardonner, à aimer, à rêver même, s'il le faut. Et cette demande de pardon au cœur de l'ignominie de la passion est une volonté de passer de la violence à la paix, de sortir de l'égoïsme et de la cécité volontaire devant ces événements. Quitter la vanité, les calculs mondains pour entrer dans la dynamique du don et du partage. Voilà, ne jamais, et c'est sa conclusion, ne jamais instrumentaliser la croix, mais la porter pour qu'elle ouvre nos cœurs.
Présence.
La fréquence de la vie.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jeûne,
sur l'éclat de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
sur tous mes chiffons d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des ombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore,
sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des monts,
j'écris ton nom.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sade,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout toucher accordé,
front de mes amis.
Sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulés,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir sans souvenir,
j'écris ton nom.
Et par le pouvoir de mon, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer.
Liberté.
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 Présence.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc sur l'actualité de l'Église universelle avec le père Michel Dagra, prêtre du diocèse de Toulouse et professeur émérite de théologie. Alors, nous allons maintenant parler du voyage du pape en Égypte, puisque donc les 28 et 29 avril prochains, c'est-à-dire cette fin de semaine, vendredi et samedi prochain, le pape François va se rendre en Égypte. Et c'est un événement, alors vous me direz comme chacun des voyages du pape, mais peut-être dans le contexte actuel, un pape qui se rend dans un pays à majorité musulmane, évidemment, ça n'est pas sans attirer l'attention de tout le monde. Et puis, il y a en plus une conférence, on va en parler, très importante, à laquelle il va assister, qui est la conférence mondiale sur la paix organisée par le grand imam de l'université Al-Azhar, donc du Caire, qui est considéré un peu comme un des hauts lieux, on va dire, intellectuels hein, du monde musulman.
Du monde musulman sunnite.
Sunnite. Donc qui s'appelle cet grand imam qui s'appelle Ahmed Al-Tayeb, donc conférence mondiale sur la paix. On va peut-être sur la portée, comment dire, sur l'importance de ce voyage, qu'on peut en dire avant qu'on le détaille et qu'on parle un peu de la situation des chrétiens en Égypte. Je le disais, il y a beaucoup, enfin, chaque voyage du pape est important, mais celui-là revêt peut-être un caractère particulier, non, Michel Dagra?
Oui, vous avez dit qu'il va dans un pays à majorité musulmane, c'est le fait, mais aussi côté chrétien, à majorité orthodoxe. Encore que les coptes soient dans l'orthodoxie, une catégorie un peu particulière. Et le fait que le pape aille rencontrer une population de ce type est en soi remarquable, parce que les griefs entre l'orthodoxie et l'Église d'Occident sont considérables. Et beaucoup ne veulent absolument pas entrer en rapport. À l'intérieur de l'œcuménisme, il y a des difficultés énormes, quoique ici ou là, quand même.
L'œcuménisme, c'est donc le dialogue entre chrétiens.
Le dialogue entre chrétiens, entre les églises chrétiennes. Donc, les coptes font une sorte de bande à part, si je puis dire. Ils ont leur pape, ils ont leur organisation. Ce sont les Égyptiens d'origine. Il faut noter cela. L'islam est arrivé après. Donc, que le pape arrive dans ce pays, c'est quand même en soi un événement. Mais il le fait dans un contexte où il y a eu des massacres épouvantables. Le jour des rameaux.
Alors donc, le
et donc, il manifeste sa solidarité avec ses frères chrétiens. Et à travers eux d'ailleurs, des frères musulmans qui aussi sont persécutés au nom de leur option de l'islam dans d'autres pays. Il n'y a pas que des chrétiens qui sont tués au nom de leur foi, des musulmans également, par d'autres musulmans en l'occurrence, ou qui se prétendent tels. Donc la démarche est profondément fraternelle. Et je crois qu'il faut noter cela. Et d'ailleurs, sa première intervention se produira le jour même de l'ouverture de cette grande conférence pour la paix. Et discours, après avoir fait quelques salamalecs avec le président, ce qui est tout à fait politiquement et diplomatiquement correct, il fera, et ça c'est le morceau très important, sa conférence dans cette assemblée qui rassemblera 300 responsables religieux et autres.
Voilà, donc discours très attendu. Donc le message du pape, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Torrent, a dit à propos de ce voyage du pape que le message du pape en Égypte sera de dire que chrétiens et musulmans peuvent vivre ensemble. Vous rappelez donc les événements, on va peut-être se dire quelques mots du programme du pape. Donc il arrive le vendredi 28, il rencontrera donc le président de la République égyptienne, Abdel Fattah al-Sissi. Ensuite, il aura donc cette grande rencontre, on a parlé de cette conférence donc mondiale de la paix en présence du grand imam d'université Al-Azhar. Puis après, il y aura une rencontre avec le patriarche copte Tawadros II. Et enfin, le lendemain, une messe. Vous avez parlé, donc c'est quand même une visite éclair, vous avez parlé donc des attentats qui ont eu lieu donc le dimanche des Rameaux. Alors oui. Tous n'ont peut-être pas suivi, c'est pas la première fois qu'il y a des attentats en Égypte, mais on va dire que ça s'aggrave de plus en plus. En tout cas, ces deux attentats, donc, c'était donc en ouverture de la Semaine Sainte, si je puis dire, enfin de fait. Oui. Des terroristes ont frappé deux églises de la communauté des Coptes orthodoxes, tuant au moins 38 personnes en blessant 113, et a été déclaré un état d'urgence en Égypte. Voilà, donc attaque qui a touché évidemment des fidèles dans deux églises de la ville, Saint-Georges de Tanta et la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie, pour être tout à fait précis. C'est pas la première fois qu'il y a des attentats en Égypte. On se souvient par exemple des 29 coptes catholiques qui avaient été victimes d'un attentat à la bombe en décembre 2016. Et pourtant, c'est un peu de pire en pire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est de pire en pire, peut-être ?
De pire en pire, moi j'en sais rien. Je n'ai pas d'instrument de mesure pour dire que ça va de pire en pire. Je peux dire simplement que c'est pire, le pire est là depuis longtemps. Et simplement, je voudrais observer que quand dans son message Torbi, le pape invite à créer des ponts de dialogue, il ne se contente pas de proclamer, de faire une espèce de texte incantatoire à l'adresse de tout le monde, lui-même s'y met. Et le fait d'aller en Égypte, de rencontrer ces personnalités qui ne sont pas de sa religion, que d'autres le sont, c'est une volonté évidente de vouloir créer des ponts, faire du dialogue entre tout le monde, dépasser les contentieux multiples et profonds qui opposent ces populations.
Alors, pour apporter les précisions, donc deux, trois précisions quand même quant à la situation politique. Donc, le président Mohamed Morsi. Le président actuel en fait est relativement plus ferme avec les islamistes que ne l'était le précédent, donc qui était Mohamed Morsi, qui a été destitué en 2013 et qui avait été donc porté au pouvoir suite au printemps arabe. J'ai relevé une déclaration responsable de l'œuvre d'Orient, voilà, que j'oublie son nom, je vais retrouver mes papiers, qui disait qu'en fait en Égypte, Monseigneur Pascal Gollnisch, qu'on a reçu à cette antenne il y a quelques mois, qui disait que les chrétiens ne se considèrent pas comme persécutés et que les chrétiens en fait n'imaginent pas, enfin évidemment il y a beaucoup d'humiliation et des actes violents, mais qui n'imaginent pas surtout leur avenir en fait sans un dialogue avec les musulmans. On dirait qu'ils y sont obligés, mais vu d'ici, parfois on oublie un petit peu qu'ils peuvent être aussi dans cet état d'esprit. Quand on parle des chrétiens d'Orient,
ils vivent ensemble, ils sont côte à côte, les maisons sont voisines, les villages sont voisins. Il y a une sorte de œcuménisme dans les faits, de dialogue dans la vie, d'un dialogue pratique qui s'effectue. On se rend service, on va aux fêtes les uns des autres, etc. Puis il faut que, quand l'extrémisme arrive là-dedans, évidemment, ça bouscule. ce tissu de relations qui lui est positif et fécond. Et cet extrémisme aujourd'hui, il vient par les musulmans, à d'autres époques, il est venu par les chrétiens. Il y a eu, c'est ça qui est terrible, c'est que les plus beaux messages religieux peuvent être instrumentalisés à des fins politiques et militaires. Donc la volonté du pape de créer des ponts est là. Et alors, ce qui était intéressant de noter aussi, c'est que cette conférence internationale pour la paix, à la différence des hommes politiques ou des régimes qui vont lutter contre l'extrémisme, ce qu'il faut faire, il n'y a aucun doute, eux portent une autre préoccupation. Ils disent qu'il faut trouver les causes, atteindre les causes, toucher le mal dans ses causes. Tant qu'on lutte contre les effets, ce qui immédiatement est incontournable, indispensable, on ne touche pas le mal à sa racine. Donc,
et là, en l'occurrence, du coup, ça veut dire quoi, les causes?
C'est... Ça veut dire que les causes de violence et la haine, oui, il y a tout un tas de choses qui sont dites, d'ailleurs, par le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Il signale que les causes sont la pauvreté, la maladie, la violence et la haine. Voilà, il faut aller jusque-là. Et si des gens ont une allergie ou vivent une humiliation considérable par rapport à l'image qu'ils se font de l'Occident, il faut arriver à neutraliser cette cause en dialoguant et en modifiant aussi ce qui est pervers chez nous. En luttant contre la pauvreté économique, enfin, il y a une exploitation éhontée des ressources des pays africains qui motive le départ de populations entières dans l'immigration pour revenir vers ici, où on leur fait miroiter un Éden qui n'est pas vrai en plus. Enfin, quand même, c'est moins mal, c'est moins douloureux et inquiétant que ce qui se passe chez eux. Donc, ce travail sur les causes, qui n'empêche pas évidemment le devoir immédiat de résister à la violence telle qu'elle se présente chez nous et ailleurs, ce travail sur les causes est une entreprise absolument indispensable qu'il faut ouvrir ou continuer, parce que ça commence ici ou là, on ne part pas de rien, mais qui politiquement, entre autres, est à considérer au premier chef.
Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conférence mondiale sur la paix? Donc, le cheikh, Ahmed Al-Tayeb, donc grand imam d'Al-Azhar, que j'ai déjà cité plusieurs fois, a déjà été reçu par le pape François en mai 2016. On a dit que c'était une visite historique qui avait confirmé le réchauffement entre l'institution sunnite du Caire et le Saint-Siège. Et en sortant, ce cheikh avait fait l'éloge du souverain pontife. Est-ce que c'est une réunion de plus? Ou est-ce que de fait il y a un aspect historique, ou qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence mondiale?
C'est à la fois une réunion de plus et une réunion historique, parce qu'il convoque 300 personnalités dont le pape.
Du monde sunnite.
Du monde sunnite et ailleurs.
Et chrétien.
Ah oui, mais il ratisse large. Moi, je n'ai pas la liste de ces 300 personnalités, mais évidemment, ce n'est pas cantonné au monde sunnite. Et sa proposition, quand même, il parle d'une nécessité humaine, d'une responsabilité, non seulement pour ceux qui partagent une croyance ou une philosophie déterminée, mais pour l'humanité tout entière. Donc là, c'est une initiative quand même qui ouvre ce qu'on pourrait appeler dans l'islam, il y a une espèce de conviction d'avoir la vérité, d'être fermé sur son interprétation du Coran. D'ailleurs, entre eux, apparemment, ils ne s'entendent pas beaucoup, entre sunnites, chiites et tant d'autres. Donc la fermeture sur la certitude d'avoir la vérité, quelque chose de bloquant. Et bien voilà un homme qui tout d'un coup ouvre, fait de l'espace et invite 300 personnes de tous bords pour parler de la paix, avec comme objectif, c'est pas simplement une espèce de gentillesse fraternelle pour accueillir tout le monde, il y a un objectif, c'est de travailler à lutter contre les causes du malheur. Et de chercher, dit-il, les moyens de coopération au lieu de chercher les conflits. Se respecter au lieu de se rejeter. Voilà. C'est rien que ça. Prenez ces deux verbes et puis essayez de les concrétiser. Même ici, maintenant, entre nous, se respecter au lieu de se rejeter. Vivre en paix au lieu de se combattre. Tolérer au lieu d'être fanatique. C'est un programme, ça, hein?
Il faut dire quand même que l'université Al-Azhar a quand même une grande autorité aussi dans le monde sunnite. C'est pas une université parmi les autres.
Mais les grandes universités, elles peuvent proclamer des choses remarquables, mais après il faut suivre sur le terrain. Donc 300 personnes qui se réunissent, ce ne sont pas 300 universitaires
du monde musulman.
D'Al-Azhar. Hein, il vient de partout. Donc, c'est une sorte d'appel, relayé d'ailleurs, ou précédé par des appels pontificaux et de tant d'autres personnalités, pour lutter contre ce malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et qui colle à l'humanité. Moi, je crois qu'il faut quand même ne pas se leurrer. Le mal est en nous. Et la foi en la résurrection, c'est de croire que ce mal est vaincu. Il n'est pas disparu, mais il est vaincu.
Donc on suivra avec attention le discours du pape François à cette conférence mondiale pour la paix, et puis pas seulement son discours. Je donnerai une dernière citation donc, de ce grand imam. « La société humaine traverse actuellement des crises écrasantes menaçant notre existence et détruisant l'essence de la vie humaine. » On sait bien que le pape François parle de Troisième Guerre mondiale par morceaux, affirme que les conflits sanglants et armés qui en découlent contredisent les valeurs religieuses sublimes et les idéaux humanitaires.
Oui, juste un mot pour dire que cet imam, il parle de la recherche de la paix entre ceux qui prêchent la religion. Ah, c'est une invitation à un œcuménisme et à des relations interreligieuses qui sont à renforcer. Ainsi pourra se réaliser uniquement la connaissance réciproque.
Présence,
c'est mieux de s'entendre.
Il y a tant de barrières entre nos vies, de destins en sens interdit. Nous on vit sans frontières, à contre-temps, et nos rêves sont nos liens du sang.
Times are changing, dreams are changing. But the fans keep going on, going on.
Hello, oh hello.
Si tu viens jusqu'ici, bienvenue dans ma vie.
Hello, oh hello.
Si tu vis loin de moi, rendez-vous où tu voudras.
Il y a tant de lumière qu'on ne voit pas, de regards qu'on ne croise pas. Nous on vit sans repère, mais jamais perdu, voyageurs de terre inconnue.
Keep on dreaming,
keep on dreaming.
Keep on living.
Jusqu'ici, bienvenue dans ma vie.
Hello, oh hello.
Si tu vis loin de moi, rendez-vous où tu voudras.
Times are changing,
changing.
Dreams are changing,
changing.
But the fate is going on,
going on.
Jusqu'ici, bienvenue dans ma vie.
Hello, oh hello,
hello.
Tu peux me faire confiance, te connaître est une chance.
Hello, oh hello,
I'll give you all my dreams, anytime that you need.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission ce matin, donc, si vous nous prenez en cours de route sur l'actualité de l'Église universelle, donc émission mensuelle avec le père Michel Dagra, prêtre du diocèse de Toulouse et professeur de théologie émérite. Alors, à la fin de cette émission, quelques sujets en vrac. Mais
c'est pas la théologie qui est émérite, hein, c'est professeur émérite.
Oui, professeur émérite de théologie. Bon, excusez-moi. Alors, à la fin de cette émission, quelques sujets en vrac, mais qui sont quand même d'importance. Entre autres, des déclarations du pape François à l'égard des camps de migrants, qui a comparé, et sa déclaration a fait scandale, qui a comparé donc les camps de migrants aux camps de concentration, rien que ça. Voilà cette déclaration qui a fait hurler un certain nombre de personnes, entre autres j'ai relevé donc l'American Jewish Committee, donc organisation juive américaine, qui a exhorté le pape, respectueusement bien sûr, à reconsidérer le regrettable choix de ces mots. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette déclaration?
Ah ben, sur le mot lui-même, deux observations. La première, c'est que le pape précise qu'il parle de concentration, parce qu'effectivement, tout un tas de gens sont concentrés dans des camps, parce qu'on ne sait pas les mettre ailleurs. Objectivement parlant, c'est camps de concentration. Et puis, historiquement, les camps de concentration ont regroupé pas seulement des juifs. On ne peut pas dire des camps de concentration qu'il n'y a eu que... Enfin, que c'est labellisé et juif. Ce qui s'est passé est absolument atroce. Il ne s'agit absolument pas de diminuer la responsabilité et la tragédie qui a envoyé tant de gens à la mort, à la souffrance et à la mort, mais enfin quand même. Et l'embêtant, hein, c'est qu'on a des mots comme ça qui sont tellement marqués par l'histoire qu'on ne peut plus les utiliser. On peut dire quelqu'un qui anime, qui conduit un groupe en Allemagne, si vous voulez, le Führer. Il a parlé de quelqu'un qui, dans une réunion, dit « pour l'animer, je veux bien être le Führer ». Ou le Duce ou le Caudillo. On a des mots qui sont, ou même, comment on pourrait dire ça, le leader à la manière Thatcher, c'est, ça ne passe pas. Donc on est coincé par le vocabulaire. Et la santé des définitions, sans édulcorer le moins du monde les atrocités qui sont toujours à déplorer, la santé de la définition du vocabulaire est importante. Mais ce mot, bon, qui a fait ces dégâts, c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas les utiliser, vu l'interprétation que l'on fait habituellement, ne doit pas nous cacher un appel par rapport aux migrants qui est quand même très vigoureux et très clair.
Je vais redonner quelques éléments de contexte. Hein. Donc, le pape François a eu ces mots à propos du drame des migrants. Il a une nouvelle fois employé des termes très forts convoquant les souvenirs de sa visite sur l'île grecque de Lesbos il y a un an, où il a comparé donc les camps de réfugiés donc à des camps de concentration en raison de la foule des personnes. En effet, ça c'est l'intégralité de la situation. Et le pape François en a profité pour saluer la générosité de la Grèce, de l'Italie, mais a regretté que la législation internationale ne permette pas aux migrants de sortir de ces pays d'accueil. Les accords internationaux sont plus importants que les droits de l'homme. Voilà, a-t-il à nouveau cogné. Nous sommes dans une civilisation qui ne fait pas d'enfants et n'accueille pas. C'est un suicide, a déclaré le pape François.
Voilà, ce sont des mots très forts, mais il faut ne pas oublier le socle sur lequel il s'appuie. Et dans cette intervention du 21 février, devant 250 participants au Forum international Migration et Paix, il s'est appuyé sur trois verbes qui ont des conséquences très concrètes dans l'immédiat de nos relations ici et maintenant. C'est accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Accueillir, c'est contre toutes les politiques de refus et d'indifférence que l'on déplore par ailleurs, et contre les démagogies populistes, hein, ces espèces de repli sur soi, de communautarisme et autres. Même à l'intérieur de frontières hexagonales, hein, c'est pareil. Cette fermeture sur le nombre qui se recroqueville sur ses propres cultures, pour prendre un mot bien grand et peut-être maladroit ici, mais voilà, accueillir, pas n'importe comment, mais accueillir quand même. Avoir cette générosité, c'est le mot qu'il utilise, pour accepter l'étranger chez nous. Ensuite, protéger, parce que ceux qui sont accueillis ici, et on en a des exemples multiples, pour peu qu'on s'occupe de la question, sont dans des situations de vulnérabilité étranges, pour le logement...
Terrible, vous voulez dire, je ferai écho à toute la mobilisation qui a été celle de Radio Présence à l'occasion de cet hiver, où il y a plus de... Enfin, minimum un millier de personnes qui dorment dehors à Toulouse, cinquantaine de familles qui ont passé l'hiver dehors, famille avec enfants. Hein. Et encore récemment, on me parlait de cas de jeunes filles étrangères qui sont victimes de viols parce qu'elles sont à la rue. Voilà, donc voilà. C'est aussi une réalité.
Voilà, et on n'a pas à se boucher les yeux sur cette réalité. On n'a pas à se contenter de la déplorer, mais il faut tout faire tout ce qu'on peut, et du point de vue politique, et nous avons des billets à mettre dans l'urne quand nous votons, pour trouver des perspectives qui permettent de respecter cet impératif moral, comme dit le pape. Et au-delà de la protection, il y a encore la promotion, promouvoir. Alors là, on retrouve la pensée sociale de l'Église la plus traditionnelle sur le développement humain, développement intégral, développement solidaire. Nous sommes faits pour nous épanouir, arriver à ce déploiement intérieur qui donne la lumière sur le sens de la vie, qui permet d'équilibrer sa vie, d'un vivre ensemble convenable. Bref, développement. Et enfin, alors ça devient très concret, c'est intégrer. Intégrer, ce n'est pas assimiler ni incorporer, c'est accepter des différences, mais des différences ouvertes pour que des liens soient possibles et même nécessaires. L'idée des ponts, créer des ponts, faire tomber des murs et mettre des ponts entre les personnes et entre les groupes, et là tout entière.
Alors, je voulais parler des apparitions de Fatima, mais on verra en fait si on a le temps, parce que de toute façon on aura l'occasion de refaire d'autres émissions à propos des apparitions de Fatima. Il y a deux autres points donc qu'il faut aborder avant que l'émission se finisse. C'est donc l'hommage qu'a rendu le pape François aux nouveaux martyrs. Le pape s'est rendu donc le 22 avril dernier à la basilique Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine à Rome, qui est, semble-t-il, donc un lieu qui est une forme de sanctuaire ou de lieu de mémoire des martyrs du XXe et du XXIe siècle. Et il en a profité donc pour parler du père Jacques Hamel, assassiné donc dans son église à Saint-Étienne de Rouvray le 26 juillet 2016, en présence donc de la sœur de ce père Hamel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette visite du pape et sur ces martyrs?
Oui, je crois qu'on reboucle ici avec ce qui était dit au début sur les malheurs de l'Égypte. Ce monde de souffrance et d'exploitation qui se traduit aujourd'hui par un certain nombre de situations. Je lis une liste donnée par le pape lui-même à cette occasion. Il y a eu le nazisme, le communisme, bon, il y a le terrorisme aujourd'hui, des génocides rwandais. Et puis, ici, c'est un cas quand même intéressant, le cas de cette femme. Comment je dis le passage, c'est trop important, ça, c'est parce que il y a un retentissement considérable à l'événement qui passe inaperçu. Voilà. Le pape dit qu'il avait rencontré, lors de sa visite des réfugiés au camp de Lesbos en 2016, un homme musulman dont la femme a été égorgée devant lui. Elle était chrétienne. Les terroristes lui ont demandé d'enlever sa croix. Et l'a refusé. Le pape s'est remémoré cet événement en rappelant que cet homme portait intérieurement la croix de la souffrance d'avoir perdu sa femme, mais ne manifestait aucune rancœur. Et ça fait écho, on réentend « vous n'aurez pas ma haine ». Et c'est une manière de dire que le martyr, le saint aujourd'hui, c'est celui qui porte en lui la vertu du dépassement de soi, le dépassement de l'inimitié, de l'ignominie, pour arriver à créer des liens et à s'ouvrir à Dieu et aux autres. Ça marche ensemble. Et puisque on parle à cette occasion de béatification, de canonisation, les petits, vous évoquiez Fatima, les voyants de Fatima, ils ne sont pas canonisés parce qu'ils ont vu la Sainte Vierge. Ils sont canonisés parce qu'ils ont eu une vie dont les vertus sont héroïques. Et c'est à ce titre, comme tous les autres canonisés, qu'ils reçoivent ce label de sainteté, si vous voulez, reconnu par l'Église.
Voilà, le procès en béatification du père Hamel qui a donc été officiellement ouvert le 13 avril dernier par le diocèse de Rouen. Pour finir, vous vouliez nous parler du synode des jeunes. Peut-être pouvez-vous nous dire ce synode donc, qui est prévu pour octobre 2018. On vous écoute.
Très important, oui, en octobre 2018, un synode, il y en a tous les 4 ans, va se tenir sur le thème suivant.
Un synode, c'est quoi déjà?
C'est un rassemblement des évêques du monde entier, non pas tous, mais des délégués des conférences épiscopales, auxquels s'ajoutent un certain nombre de personnalités désignées par le pape, et qui positionne en quelque sorte, qui énonce la position de l'Église ou qui précise la position de l'Église sur les problèmes particuliers. Bon, on vient d'en avoir un et c'est pas fini quant aux conséquences et au déploiement des réflexions sur la famille. Il y a eu même deux synodes pour présenter cette question et la traiter. Et le prochain, donc, est sur les jeunes, avec comme titre « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Alors, ce qui est intéressant dans cette proposition, quand le pape en parle ou a annoncé ce synode, dans son document préparatoire, il fait référence à Abraham. Abraham qui a quitté son pays. Il n'a pas quitté les siens, il a quitté son pays. Pour arriver dans une situation qui est tout à fait nouvelle, qu'il ne prévoyait pas, mais où il savait qu'il allait avec Dieu et qu'il le rencontrerait. Et le pape, prenant appui sur cette référence biblique, dit que aujourd'hui, cette nouvelle terre, c'est une société plus juste et plus fraternelle. Donc c'est pas la peine d'aller chercher cela à des kilomètres de distance, mais ici et maintenant, réaliser une nouvelle terre qui soit plus juste et plus fraternelle. Bon, le projet est immense, évidemment, il est permanent en plus, mais c'est l'occasion de dire que...
Mais les jeunes auraient un rôle particulier
voilà,
à si, jouer dans cette,
si
cette
les jeunes,
route vers cette terre promise.
Tout à fait. Si ce n'est pas le fait des jeunes, ce sera le fait de qui? Et le pape dit ceci, voyons, je vais citer un passage là, qui est important. « L'Église désire se mettre à l'écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi, voire de vos doutes et de vos critiques. Faire entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés, faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés. » Alors on peut prendre un impact de cette proposition dans les communautés paroissiales qui sont les nôtres. Hein. « Laissez résonner les communautés et faites-les arriver aux pasteurs. » Les prêtres, évidemment, sont récepteurs de ces messages. « Saint-Benoît, voilà, on peut prendre ça comme pour la fin. « Saint-Benoît, recommandez aux abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante. Parce que, citation, « souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur. » Règle de Saint-Benoît, chapitre 3, paragraphe 1. Moi, je crois que là, il y a un appel qui est à entendre, parfois qui n'est pas suffisamment soutenu pour que les jeunes prennent leur place dans l'Église et dans sa volonté d'aggiornamento.
Voilà, comme on sait que notre archevêque a été aussi père abbé bénédictin, on est certain qu'il ne manquera pas d'être attentif
à
cette citation. Merci beaucoup, Père Michel Dagra,
avec plaisir.
Pour cette revue de presse de l'Église universelle, bien nécessaire chaque mois. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret et Quentin Espitalier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.